VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à N'Djamena au Tchad. Un homme soupçonné d'être un djihadiste a été arrêté aujourd'hui après avoir tiré sur des policiers tchadiens en faction devant l'ambassade des États-Unis à N'Djamena. L'individu arrivé sur une moto a tiré à bout portant sur la sécurité de l'ambassade. Il a été maîtrisé par les policiers. Par la suite, il n'y a pas eu de blessés. Il a été confié au service de renseignement. Dans un testament retrouvé sur lui, selon l'AFP, il est mentionné clairement qu'il a fait allégeance à l'organisation de l'État islamique. Il serait fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et des Sports. N'Djamena a été la cible d'attentats suicides meurtriers commis par des kamikazes de Boko Haram qui attaquent également régulièrement les soldats tchadiens autour du lac Tchad. En RDC, les jeunes du PPRD, parti du président Joseph Kabila, lancent une campagne d'appel au calme en attendant la tenue des élections. Une réponse à la campagne « Bye bye ». Kabila, que des mouvements citoyens et l'opposition ont démarré le week-end dernier. Les précisions, Eddy Sango.
La campagne de jeunes kabilistes a pour nom « Tous pour les élections apaisées ». Ces animateurs sensibilisent pour que les Congolais ne détruisent pas les pays à la date du 19 décembre 2016, car des élections ne pourront pas être organisées à cette échéance. Le secrétaire national du PPRD, chargé des propagandes, Christophe Colomoni.
La jeunesse du PPRD a décidé de lancer une campagne qui appelle à la paix de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Il y a une partie des compatriotes qui pensent que si j'enlève les lunettes, les élections ne sont pas tenues. C'est le chaos, c'est l'hécatombe chez nous. Nous disons non. Sommes-nous en droit de pouvoir se lever toute une nation, de la baisser dans des violences pour vivre puisque la Constitution n'a pas été respectée. D'autant plus que les soupçons qui pèsent sur les chefs de l'État n'ont jamais été prouvés par personne. Lui-même n'ayant jamais dit à qui pense qu'il pourra déroger à la Constitution. Il l'a dit, il continue à le répéter, que la Constitution sera respectée.
De leur côté, les mouvements citoyens estiment que reporter les élections et maintenir le président Kabila en place est une violation de la Constitution.
Toujours en République démocratique du Congo, les Nations Unies ont affirmé aujourd'hui craindre de nouvelles violences intercommunautaires dans l'est du pays. Dimanche, au moins 30 personnes ont été tuées dans un massacre à caractère ethnique lors d'une attaque d'un camp de déplacés Hutus du village de Luanga par une milice Nandé dans le sud du territoire de Lubero, selon les Nations Unies. Maintenant, le dossier de ce journal, la Coupe d'Afrique des Nations Féminines au Cameroun permet de se mobiliser en dehors du terrain pour lutter contre les mariages précoces. À l'occasion de ce temps fort du football, des efforts sont déployés pour sensibiliser les chefs traditionnels dotés de plusieurs épouses, dont certaines ne sont que des adolescentes. Morgane Guiriet.
Durant la Coupe d'Afrique des Nations Féminines 2016, plusieurs groupes de danse profitent de leur spectacle pour témoigner leur solidarité envers Awa, 19 ans, qui a été forcée de se marier à un chef traditionnel à 14 ans.
J'ai été mariée trop tôt parce que mes parents étaient pauvres et parce qu'ils ne voudraient pas abandonner la tradition. J'étais déprimée, stressée parce que je n'étais pas prête pour assumer les responsabilités du mariage. J'ai eu un enfant, alors que moi-même, je n'étais qu'une enfant.
Dans la foule, Joseph Kameni, chef traditionnel de Bassap, une localité de l'ouest du Cameroun. Il est marié à 24 femmes.
Une chefferie où il n'y a pas beaucoup de femmes, ça veut dire qu'il n'y aura pas suffisamment de monde. Plus il y a beaucoup de monde, c'est plus la chefferie devient très solide. 40, 30 quelque chose de femmes. Mon grand-père avait 36 femmes.
Le roi Kameni dit compter sur sa grande famille pour nourrir ses épouses et ses centaines d'enfants. Au Cameroun, il est très fréquent de voir les chefs traditionnels se marier à beaucoup de femmes. Et du coup, les organisations non gouvernementales, le gouvernement, les Nations Unies et l'Union africaine ont décidé d'utiliser la Coupe d'Afrique des Nations pour soulever des préoccupations, notamment le sort des adolescentes contraintes de se marier. Selon Barbara Sow, représentante du Fonds des Nations Unies pour la population au Cameroun, l'organisation met en œuvre des programmes pour protéger les adolescentes.
Il y a deux stratégies. D'abord, les groupes d'hommes se réunissent pour tenter de déterminer comment les hommes entre eux peuvent discuter de ces filles mariées à 13 ou 14 ans. En tant que chef de famille, en tant que père, ils prennent les meilleures décisions pour eux-mêmes, pour leurs épouses et pour leurs enfants. Très souvent, les individus sont prêts à prendre une décision, mais ils estiment que la pression de la société est trop grande.
Kosa Sana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, a assisté à la cérémonie pour encourager une lutte continentale contre les abus sur les droits des femmes et des filles. L'agenda 2063 de l'Union africaine plaide pour un effort concerté vers l'arrêt d'ici 2020 des mariages des enfants, des mutilations génitales féminines et autres pratiques culturelles néfastes. En attendant, le nouveau code pénal camerounais s'oppose aux mariages multiples en réservant des peines d'emprisonnement pour les conjoints adultères et en augmentant le coût de prise en charge des familles nombreuses.
Et près d'un million de Gambiens sont appelés à choisir demain, jeudi, le nouveau président pour 5 ans au cours d'un scrutin à un tour. Le chef de l'État sortant, Gambien Yahya Jammeh, a déclaré mardi que toute manifestation serait interdite après l'élection présidentielle au moment où la capitale Banjul connaissait d'importants rassemblements en faveur du leader de l'opposition, Adama Barrow. Face à l'ampleur inédite de ces manifestations, le leader Adama Barrow a pressé le président Jammeh de faire preuve de calme dans le cas où il perdrait l'élection portée au pouvoir par un coup d'État en 1994, élu pour la première fois en 1996, puis réélu à 3 reprises. Il est pour la première fois confronté à un véritable défi dans les urnes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Haïti, les partisans de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, mécontents de la défaite humiliante de leur candidate, Dr Maryse Nassis, à la présidentielle du 20 novembre, elle n'a été que quatrième, ont organisé des manifestations violentes hier mardi à travers Port-au-Prince. Aucune victime n'a été signalée, mais selon l'agence Reuters, des coups de feu pouvaient être entendus dans certains quartiers. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui brûlaient des pneus et menaçaient d'attaquer des établissements privés. En revanche, deux autres candidats malheureux, Jude Célestin et Moïse Jean-Charles, ont choisi la voie légale pour contester la victoire au premier tour de Jovenel Moïse. Le journaliste haïtien Tom Dumont se dit plutôt inquiet pour l'avenir.
Puisque le pays sera ingouvernable, il n'y aura pas effectivement d'investissement étranger et que la vie en Haïti ou bien à la capitale haïtienne sera difficile. Il y a de cela 24 heures, le président provisoire Jocelyne Guiver avait préconisé la stabilité. Malheureusement, on a annoncé un climat de violence au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Jusqu'à aujourd'hui, la police réprimait en quelque sorte, pas de manière violente, mais réprimait les manifestants qui voulaient semer la pagaille au niveau de la capitale haïtienne. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, à la personne de Saint-Paul Léger, il donnait la garantie que tout allait se passer bien. On a annoncé depuis avant-hier qu'on allait incendier les espaces de plusieurs médias et assassiner des journalistes.
Tom Dumont, rédacteur en chef de la radio Signal FM, nous parlait de Port-au-Prince. Moscou espère que la situation à Alep pourra être réglée d'ici la fin de l'année, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, cité aujourd'hui par l'agence de presse RIA. Le sort de la grande ville du nord de la Syrie, où les rebelles ont perdu ces derniers jours une part importante des secteurs qu'ils contrôlaient, doit être évoqué aujourd'hui lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un haut responsable de l'alliance militaire soutenant le régime de Damas a rapporté mardi, selon Reuters, que l'armée syrienne et ses alliés, dont la Russie, voulaient reprendre le contrôle de toute la ville avant l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis le 20 janvier. Et puis après 2 jours d'hommage posthume, les cendres de Fidel Castro quittent définitivement aujourd'hui la capitale cubaine pour parcourir le pays jusqu'à Santiago de Cuba, dans l'est de Cuba, berceau de la révolution, où elles doivent être mises en terre dimanche. L'urne funéraire en bois doit être embarquée à bord d'un cortège motorisé qui doit suivre sur quelques 950 km le trajet effectué dans le sens inverse par Fidel Castro au moment de la victoire de sa guérilla en 1959. Les restes de Fidel Castro seront enterrés dimanche au cimetière de Santa Ifigenia de Santiago, à côté du mausolée de José Martí, héros de l'indépendance de Cuba. Ses funérailles scelleront la fin du deuil national décrété pour 9 jours après son décès annoncé vendredi soir par son frère et successeur Raúl Castro. Jean-Roger Billon à ce micro. Fin de ce journal. Vous retrouverez dans 50 minutes Henri Francis pour un nouveau point de l'actualité. À plus tard.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.